Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 3, chant 3, la maison de l'esprit et la nouvelle création. Ce vague univers lointain semblait maintenant étranger. Seul était réel le moi et l'éternité. Puis, la mémoire des plans qui se débattent est montée jusqu'au roi, apportant le cri des choses chéries autrefois aimées. Et à ce cri, comme à son propre appel perdu, un rayon du suprême mystère a répondu. Car même là, dans cet univers, l'un sans borne habite. Méconnaissable pour ses propres yeux, il vivait là, englouti encore dans ses propres mers ténébreuses. Soutenant l'unité inconsciente du monde, caché dans la multitude insensible de la matière, cette semence du moi semée dans l'indéterminé abdique la gloire de sa divinité, dissimule l'omnipotence de sa force, dissimule l'omniscience de son âme, messagère de sa propre volonté transcendante, elle implante la connaissance dans les abysses inconscientes, acceptant l'erreur, le chagrin, la mort et la douleur. Elle paye la rançon de la nuit ignorante et par sa substance rachète la chute de la nature. Le roi connaissait son propre moi et pourquoi son âme était allée dans l'obscurité passionnée de cette terre pour partager le labeur d'une puissance égarée qui espère par la division trouver l'un. Ils étaient deux êtres, l'un vaste, libre, en haut, l'autre lui-même, luttant, enchaîné, intense, sa parcelle ici. Un lien entre eux pouvait encore jeter un pont entre deux mondes. Il y avait une vague réponse, un souffle lointain. Tout n'avait pas cessé dans le silence sans borne. Son cœur gisait quelque part, conscient et solitaire. Loin là-bas, sous lui, comme une lampe dans la nuit, alors la lampe dans la nuit a un nota bene. Rappelons que le corps du roi était en état cataleptique de transe au bord de la mort, sacrifié, offert, tandis qu'il était parti rejoindre sa base éternelle en quête d'une énergie qui n'existe pas encore sur la terre, attendant la descente qui sauverait le monde, le consentement de sa haute source toute puissante. Abandonné, il gisait, impérissable et seul, immobile dans un excès de volonté passionnée, son cœur vivant, sacrifié et offert. Absorbé dans une adoration mystique, était tourné vers sa lointaine source de lumière et d'amour. Dans l'immobilité lumineuse de son appel muet, il regardait vers des hauteurs qui qu'il ne pouvait pas voir. Il aspirait dans les abîmes brûlants qu'il ne pouvait pas laisser. Au centre de son immense transe fatidique, à mi-chemin entre son moi déchu et son moi libre, intercédant entre le jour de Dieu et la nuit des mortels, acceptant l'adoration pour unique loi, acceptant la félicité comme une unique cause des choses, refusant l'austère joie que nul ne peut partager. Refusant le calme qui vit, pour le seul calme, vers elle il se tournait. Pour elle, il voulait vivre dans la passion de son rêve solitaire, son cœur opposé comme un oratoire clos, sans frisson, là où dort un sol d'argent consacré, allumé par l'unique rayon qui ne vacille pas, et une invisible présence s'agenouille en prière. Tout le reste de lui était rempli de quiétude. Sur quelques poitrines profondes de paix libératrice, le cœur seulement savait qu'il y avait une vérité par-delà. Tous les autres éléments étaient muets dans un sommeil centré, consentant au lent pouvoir délibéré qui tolère l'erreur du monde et son chagrin, consentant au long délai cosmique, attendant sans fin, à travers des années patientes, la venue de celle qu'il avait demandée pour la terre et pour les hommes. À ce point-là, brûlant, qui maintenant appelait sa venue, l'anéantissement ne pouvait pas éteindre ce feu solitaire. Sa voyance emplissait le vide du mental et de la volonté. La pensée était morte, mais la force inaltérable de ce feu attendait et grandissait. Armée de l'intuition, d'une félicité dont la seule clé était quelque tranquillité émouvante, ce feu persévérait à travers l'énorme vide de la vie, au milieu de la négation totale du monde. Il adressait sa prière muette à l'inconnu. Il écoutait, il attendait les pas de ses espoirs, revenir à travers les immensités vides. Il attendait le fiat du Verbe qui vient du suprême à travers le moi immobile. Alors, dans ce passage, le point du maintenant de Sri Aurobindo, le cette fois-ci de la nouvelle création. Ce point-là, c'est ce point-là brûlant qui maintenant attendait sa venue. Alors le point du maintenant de Sri Aurobindo, le cette fois-ci de la nouvelle création. Fin du chant 3, la maison de l'esprit et de la nouvelle création. Alors je vais vous lire maintenant le début de la poursuite, chant 1, la poursuite de l'inconnaissable. Tout ce que le monde peut donner est trop peu. Son pouvoir et sa connaissance sont les dons du temps. Ils ne peuvent pas combler la foi, la soif sacrée de l'esprit. Bien que ses formes soient faites de la grandeur de l'un, et par le souffle de sa grâce, nos vies subsistent, bien que plus proche de nous que la proximité de notre moi, il est la vérité complète de ce que nous sommes, caché par ses propres œuvres. Il semblait si loin, impénétrable, occulte, sans voix, obscure. Cette présence qui donne un charme aux choses était perdue. Cette gloire dont toutes les choses sont un vague signe manqué. Le monde continuait de vivre, vidé de sa cause. Comme l'amour quand le visage du bien-aimé est parti. Tout ce labeur pour connaître semblait une vaine lutte du mental. Toute connaissance finissait dans l'inconnaissable. L'effort pour gouverner semblait un vain orgueil de la volonté. Une futile réussite méprisée par le temps, tout pouvoir retourné dans l'omnipotent. Une caverne de ténèbres garde la lumière éternelle. Le silence est tombé sur les luttes de son cœur, délié des voix d'un monde de désir. Le roi s'est tourné vers l'ineffable, vers l'appel de toujours. Un être intime et sans nom, une vaste extase et une paix irrésistible, senti en lui-même et en tout, et pourtant jamais saisi. S'approcher puis échapper à la poursuite de son âme, comme pour le séduire et l'entraîner plus loin, toujours. Proche, il s'éloignait. Loin, il l'appelait encore. Rien ne pouvait satisfaire, sauf son délice. Son absence laissait ternes les actions les plus grandes. Sa présence rendait divine les petites choses. Quand il était là, l'abîme de son cœur était plein. Mais quand le soulèvement divin se retirait, l'existence perdait son but dans l'inanité. La hiérarchie des plans immémoriaux, la plénitude des instruments divins devenaient des décors pour une scène impermanente. Mais qui était cette grandeur, il ne le savait pas encore. Impalpable et pourtant emplissant tout ce qui est. Il créait et effaçait un million de mondes. Il prenait et laissait un million de formes et de noms. Il vêtait le manteau d'une vastitude indécernable où il était un grain subtil dans l'âme. Une lointaine grandeur le laissait immense et vague à proximité mystique. L'enfermer gentiment. Parfois, il semblait une fiction ou un travestissement, et parfois semblait au roi comme sa propre ombre colossale. Un doute géant obscurcissait sa marche. À travers un vide neutre qui portait tout, un blanc qui nourrissait le désert de son esprit immortel, attiré par quelque suprême mystérieux, aidé, contraint par des puissances énigmatiques, aspirant et à moitié englouti et soulevé, encore, jamais vaincu, il grimpait sans halte. Toujours une vague immensité sans signe planait sans accès par-delà les réponses, condamnant les finitudes au néant, le confrontant à l'incommensurable. Puis, l'ascension est arrivée à un formidable bout. Il touchait à une hauteur où nulle chose créée ne pouvait vivre, une ligne où tout espoir, toute quête devait cesser, aux confins de quelque réalité intolérante et nue, un signe zéro, lourd, d'un changement illimité. Sur un seuil vertigineux où tout déguisement tombe, où le mental humain doit abdiquer dans la lumière, ou mourir comme le phalène dans la flamme nue de la vérité. Il se trouvait contraint à un terrible choix. Tout ce qu'il avait été et tout vers quoi il tendait devait maintenant tomber ou bien se transformer en un moi de cela qui n'a pas de nom, seul et face à une intangible force qui ne donnait nulle prise à la pensée. Son esprit affrontait l'aventure du néant. Abandonné par le monde des formes, il se débattait. Tous les fruits d'une ignorance mondiale sombraient là. Les longues spirales du lointain voyage de la pensée arrivaient à leur terme et l'acteur de la volonté faisait halte, impuissant. Les modes symboliques de l'existence n'avaient plus de sens. Les structures bâties par la naissance s'écroulaient. Nul, et même l'esprit qui contient l'univers défaillait dans une lumineuse insuffisance. Dans une abyssale faillite de toute chose bâtie, transcendant tous les appuis périssables et rejoignant enfin son origine grandiose, le moi séparé doit fondre ou renaître dans une vérité qui dépasse les moyens du mental. Toutes les perspectives splendides, les douces harmonies étaient balayées comme de gracieuses notes frivoles, purgées dans le silence austère et nu de l'être, mortes dans un noble néant bienheureux. Les démiurges perdaient leur nom, leur forme. Les grands mondes ordonnés qu'il avait conçus et tramés passaient, saisis et abolis un par un. L'univers tirait son voile coloré. Et au bout inimaginable de l'énorme énigme des choses créées apparaissait là-bas le Dieu du tout. Les pieds solidement posé sur les ailes prodigieuses de la vie. Tout-puissant, solitaire, spectateur du temps inscrutable, un immobile regard de diamant tourné au-dedans. Comme aimanté par l'œil insondable, les lents cycles sans issue retournaient à leur source pour ressusciter encore de cette invisible mer. Tout ce qui était né de sa puissance était maintenant défait. Rien ne restait de ce que conçoit le mental cosmique. Même l'éternité s'apprêtait à s'effacer comme une teinte tronqueuse plaquée sur le vide. L'espace était un papillonnement d'un rêve qui sombrait avant de finir dans les abysses du rien. L'esprit impérissable, le moi de Dieu, semblait des mythes sortis de l'inconnaissable, de ça tout jaillissait, en ça tout était appelé à cesser. Mais ce que cela était, ni la pensée ni la vision ne pouvaient le dire. Seul restait une informe forme de moi, un fantôme ténu de quelque chose qui fut. La dernière expérience d'une vague qui retombe avant de sombrer dans une mer sans borne, comme si, au bord du néant, elle regardait la sensation nue de l'océan d'où elle venait. Une vastitude planée, libre du sens de l'espace, une perpétuité séparée du temps, une étrange paix, sublime, inaltérable, silencieuse, rejetait le monde et l'âme. Une déserte réalité sans compagnon. Finalement, répondait à la recherche passionnée de son âme. Sans passion, sans parole, absorbée dans son insondable sérénité, gardant le mystère que nul ne percevra jamais. Elle planait, inscrutable, intangible, défiant le roi de son terrible calme muet. Il n'y avait nul parenté avec l'univers, il n'y avait aucun acte, aucun mouvement dans son vaste. Les questions de la vie mouraient sur ses lèvres, perdues dans son silence. L'effort du monde cessait, convaincu d'ignorance, ne trouvant nul consentement de la lumière céleste. Là, il n'y avait pas de mental, ni son besoin de connaître. Là, il n'y avait pas de cœur, ni son besoin d'aimer. Toute personnalité périssait dans cet anonymat. Il n'y avait pas de deuxième. Cela n'avait ni conjoint, ni père. Cela seulement était réel à soi-même. Une pure existence indemne de la pensée et des humeurs. Une conscience d'immortelle béatitude sans partage, sise à l'écart de son infini nu, une et unique, ineffablement seul. Un être sans forme, sans trait, sans voix, se connaissait lui-même par son propre moi sans temps. À jamais conscient dans ses abîmes immobiles, ne créant rien, créé par rien et jamais né, l'un par lequel tout vit et qui ne vit par personne, un lumineux mystère incommensurable, gardé par les voiles de l'immanifeste lieu suprême, immuablement pareil, par-delà l'interlude des changements cosmiques, cause silencieuse, occulte, impénétrable, infinie, éternelle, impensable, solitaire. Fin du chant 1. Sri Aurobindo, Savitri, livre 3, chant 1. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture que j'offre à Auroville, l'Inde et le monde. Ganga Lakshmi.